sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et le chant du pinson nous annonce qu'aujourd'hui nous allons parler équilibre de la nature, car nous nous penchons sur cette science étonnante qu'on nomme écologie. En sortant des frondaisons tropicales, l'éléphant broute l'herbage. Le voilà attentif et mystérieux quand il prend soudain le temps d'appuyer sa solide trompe contre un arbre et entreprend de le faire tomber. L'éléphant ne fait pas que démontrer sa force brute contre le végétal. En déracinant le feuillu, le colosse fabrique de la prairie, là où la forêt semblait petit à petit coloniser le sol. Bien sûr, il y a fort longtemps que l'observation des animaux a révélé leurs délicates relations. Si la zoologie semble remonter aux toutes premières préoccupations de la préhistoire, l'écologie n'existait pas encore au XVIIIe siècle. Certes, Carl von Linné s'extasie déjà en 1766 sur la scène de la nature faite de poids et de mesures où chaque mousse, coquille ou insecte tient un rang important dans le plan de la nature. Mais cette ode ne signifie rien quant à la compréhension des vraies interactions de la vie sauvage. Rappelons-nous. La science ne regarde pas le réel. Non. Derrière le fait, il faut l'esprit d'analyse. Les Grecs ont déjà démontré que le fait n'existe pas. Il faut le construire en cherchant sa signification derrière des évidences premières. Car l'observation est souvent trompeuse, parfois même inutile. Ainsi, chaque jour, je peux voir le soleil se lever, chaque jour, je peux mesurer l'heure du lever du soleil, et cependant, jamais le soleil ne se lève. Il faudra introduire tout un calcul pour comprendre que le Soleil ne fait que tourner autour de la Terre. De même, la science biologique accède à un rang différent qui quitte l'ésotérisme vers le IIe siècle à partir de Lucrèce. Oui, il existe bien des observations naturalistes déjà, mais il faudra la rigueur d'un Descartes pour définir une véritable méthode scientifique, une manière de conduire sa raison pour ne pas se laisser influencer par l'immédiat. Si les premiers pas de la zoologie ne peuvent pas ignorer les relations que les faunes et les flores établissent entre elles, la compréhension des rôles subtils de chacun reste longtemps un grand mystère. Et puis, la science définie par Descartes n'annonce-t-elle pas que l'homme va pouvoir se rendre maître et possesseur de la nature ? Les mathématiques et la géométrie en font la mesure, la botanique et la zoologie en saisissent les ressources, la géologie en cherche les richesses minérales, la médecine prévient les erreurs biologiques et les traite. Et toutes les agressions faites contre la nature et contre les humains sont également traitées par la médecine et d'autres sciences. Maître et possesseur de la nature, ainsi irait la science. Mais alors, que dit l'écologie ? Non seulement il semble que l'écologie s'intéresse aux relations complexes qui se construisent entre les êtres vivants, mais l'écologie nous donne aussi des leçons sur le monde. Il ne s'agirait plus de posséder la nature, mais de se réconcilier avec la nature. L'écologie serait cette science de la réconciliation entre les hommes et leur planète. D'où vient donc cette idée d'écologie et Darwin dans tout ça ? En admettant la finitude du monde, l'humain perdrait-il l'envie de posséder, d'exploiter, de détruire ? L'écologie dispose, pour contrer cela, d'un mot-clé formidable, les équilibres de la nature, car les relations du monde sont précaires et la nature nous apprendrait à accéder à une autre forme de richesse en concédant une alliance avec la Terre. Voilà bien de quoi nous faire entrer dans une interrogation subtile. Ces fameux équilibres sont-ils scientifiques ou bien rêvés ? Eh bien, nous avons 1h30 pour en disserter sur Radio Libertaire.
La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Ah, ah, ah. Je lui soleil, tu sais, joue.
Vous écoutiez Au Petit Bonheur, Je veux du soleil. Eh bien, nous allons parler d'équilibre de la nature. Cette idée paraît aujourd'hui bien familière, mais rien ne semblait imposer une science de ces équilibres. Les concepts se sont construits sur des bases assez fragiles. Comment l'idée d'écologie est-elle apparue dans la science ? Dis-nous, Thierry.
Eh bien, Siona, l'écologie a une histoire assez récente. Il est très difficile de concevoir vraiment l'émergence de la science écologique, car nombre de biologistes énoncent ici ou là quelques prémices, sans vraiment savoir comment utiliser toutes ces idées. En fait, on va dire que la notion de milieu existe déjà chez Platon, comme un rapport entre les êtres et ceux qui les entourent. Il y a également Théophraste, il y a -391 à peu près, qui parle des communautés dans les végétaux. Mais il faut attendre vraiment Buffon pour énoncer quelques généralités sur la faune et la flore. Et les choses vont changer. Ainsi, les voyageurs de la fin du Moyen-Âge avaient déjà bouleversé quelques idées médiévales sur la nature. Par exemple, Pierre Belon, au cours de son périple en Grèce, Turquie, Égypte et Arabie, a classé et répertorié des centaines d'espèces et il a essayé de définir plus ou moins partiellement ce qu'il a appelé leur milieu. En même temps, la surexploitation des mines et des forêts ouvre déjà la porte à des soucis de conservation de ces ressources de la nature. On s'inquiète de la disparition d'espèces emblématiques comme le dodo de l'île Maurice et de la Réunion qui ont été découvertes en 1598, mais qui disparaît déjà à la fin du XVIIe siècle. Ou encore du pigeon voyageur décrit par Jean-Jacques Audubon et qui s'éteindra au milieu du XIXe siècle. Ce pigeon migrateur qui connaissait pourtant des populations immenses. Car l'écologie est située à un point de rencontre entre plusieurs préoccupations scientifiques et notamment à partir de la zoologie et de la botanique.
Vers quelle période apparaît l'écologie ?
Alors on peut donc faire remonter l'écologie à ses premières tentatives, à l'étude écologique des explorateurs comme par exemple la Condamine ou le naturaliste Bougainville, c'est le grand-père de Zodaxa pour ceux qui nous écoutent. Et surtout à Alexander von Humboldt, puisque Alexander von Humboldt, qui est fils d'une Française huguenote et d'un Prussien, est un naturaliste intéressé par le fonctionnement des nerfs et des plantes. Il va donc chercher quelles sont les relations entre ces éléments. En 1798, il s'installe à Paris, où il va mener des expériences botaniques avec Jussieu et avec Lamarck, le grand-père de l'évolution. Une expédition de Bougainville étant annulée par les guerres, il va aller à Cologne, où il va devenir un géographe mandaté par l'Académie des sciences de Paris. Il embarque sur la corvette Pizarro, hein, ça fait beaucoup de noms étrangers tout ça, pour une expédition vers le Venezuela en 1799. Et c'est durant cette expédition scientifique qu'il a l'ambition de s'efforcer de, dit-il, de découvrir l'interaction des forces de la nature et les influences qu'exerce l'environnement géographique sur la vie végétale et animale, démontrant qu'à cette période, l'écologie est déjà une préoccupation scientifique majeure, bien qu'elle n'ait pas encore été reconnue par un nom. Il va visiter le Roanoke, il répertorie des milliers de plantes et il s'aperçoit combien elles sont dépendantes de la place, de l'endroit où elles croissent, comme dit Humboldt. Il va offrir son herbier au Muséum de Paris et à l'issue de ce voyage extraordinaire, Humboldt va participer à la rédaction du premier tome qui va narrer les résultats de l'expédition. Alors ça s'appelle un essai sur la géographie des plantes, reconnaissant que les plantes ont une place, un endroit donné. Et cette répartition géographique va être liée à des variables de température, d'éclairement et de latitude. Voilà donc que commence petit à petit à se dessiner une idée tout à fait nouvelle, les organismes vivants et leurs conditions de vie dans un lieu donné. On peut en quelque sorte parler de l'habitat des plantes. On va dire qu'il s'agit du premier courant botanique de l'écologie.
Mais il y en aura d'autres.
Alors, il y en aura d'autres, oui, notamment le courant géologique et le courant relation entre les populations. On retrouve le chercheur fondateur de la génétique, Augustin Pyram de Candolle, dont nous avions déjà parlé pour la découverte des lois d'hérédité, et qui, en 1820, propose une véritable révolution de la pensée biologique en intégrant l'évolution des ensembles végétaux. Il décrit les ruptures de répartition, les discontinuités botaniques. Et c'est tout ça qui va ouvrir les portes de ce qu'on va appeler ensuite la phytosociologie, l'organisation des plantes, qui sera redéfinie ensuite par Anton Joseph Kerner von Marilaun et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Enthousiasmé tout ça par des idées évolutionnistes de Lamarck qui vont proposer de nommer éthologie, l'étude de ces relations entre les êtres organisés dans la famille, l'agrégat et la communauté, dit-il. Mais c'est avec Auguste Comte qu'on va vraiment détacher la science de la religion avant 1850 et qui va faire connaître la notion de milieu en tant que pour lui le milieu est l'ensemble des circonstances extérieures qui vont déterminer un organisme. Alors Philippe Pelletier, le chercheur de Lyon, a longtemps attiré notre attention sur le fait que le concept de milieu est une notion positiviste et qu'Auguste Comte a proposé cette étude théorique du milieu, la mésologie, dans son système de politique positive. Le terme de mésologie est ancien et c'est à Philippe Robin qu'on doit la science de l'étude des milieux dès 1848. Mais ensuite, Louis-Adolphe Bertillon, en 1860, va la détailler et le concept va être adopté et redéveloppé par Élisée Reclus en tant que science des milieux ou mésologie, notamment dans son livre « L'homme et la terre ».
Il s'agit déjà de parler des milieux écologiques.
Oui, l'idée s'impose à plusieurs auteurs de cette époque que les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres. Les espèces ne se répartissent pas selon les individus de manière uniforme, mais se regroupent, et leur regroupement va s'organiser dans ce qu'on va appeler des communautés d'êtres vivants. Alors ce sont aussi ce qu'on va nommer les biocénoses. Ce terme ne sera inventé qu'en 1877 par Carl Möbius, bien que ses études seront commencées dès 1820-1840. Carl Möbius était un zoologue allemand né en 1825 et qui va enseigner à Kiel puis à Berlin.
Qu'a-t-il découvert ?
Alors lui, il a commencé par étudier les huîtres et les coquillages sur les rochers. Et là, Möbius comprend qu'il existe des liens. En 1863, il va fonder un aquarium marin. Et évidemment, en fondant cet aquarium, il va vite comprendre que chaque espèce possède son rôle particulier dans l'ensemble. Avec le chemin de fer, la demande en huîtres va progresser. Et Möbius on va lui demander de rechercher des moyens de pallier à l'épuisement de la ressource en huîtres. Donc il va étudier le bivalve, les conditions de sa reproduction, et il comprend très vite qu'il faut tenir compte des relations que les huîtres ont avec leur environnement. Möbius va donc définir un objet d'étude tout nouveau, ce qu'il va appeler la communauté des êtres vivants, à un endroit donné. La faune d'une mare, par exemple, c'est un assemblage d'espèces phytophages et carnivores qui vont assembler des petits crustacés, des insectes, des larves, des gastéropodes. Et on va retrouver dans une autre mare un assemblage quasi semblable. Ces regroupements d'espèces différentes démontrent donc que les interactions entre les êtres vivants vont les relier entre eux pour fabriquer des ensembles plus vastes et qui vont être différents d'espèces, une communauté. Ces communautés vont être semblables dans les milieux semblables. Ces groupements vont varier d'un endroit à l'autre en révélant de petites différences selon l'ensoleillement, la latitude, l'humidité du lieu. La communauté, ou biocénose, associe donc des ensembles d'individus et d'espèces différentes présentes dans un milieu donné à cause de petites variations d'affinité. Par exemple, les ceintures végétales qui entourent un étang vont être à peu près toutes les mêmes, sauf qu'elles vont être différentes en fonction du degré d'humidité du sol, des plantes les plus éloignées du bord de l'eau, jusqu'aux plantes immergées. La biocénose, nous dit Möbius, c'est l'ensemble des organismes qui ont quelque chose en commun. On doit donc étudier cela comme un ensemble. On parle aujourd'hui notamment de ce qu'on appelle l'écologie des communautés.
C'est vraiment le début d'une science nouvelle, mais en fait, d'où vient le mot écologie ?
Alors le mot écologie a une histoire étonnante, c'est Haeckel, professeur d'anatomie et darwinien convaincu, qui le premier en 1866 va définir la notion d'écologie, en quelque sorte la maison des organismes. Par écologie, nous entendons la science des rapports des organismes avec le monde extérieur, dans lequel nous pouvons reconnaître d'une façon plus large les facteurs de la lutte pour l'existence. Sous le nom de conditions d'existence, nous comprenons l'ensemble des relations que ces organismes entretiennent les uns avec les autres. Voilà, donc il va définir cela comme le fait que les organismes vont servir de nourriture aux autres, et il va essayer de les placer dans des catégories de conditions d'existence. Ça se passe en 1866, mais pour lui, l'écologie, c'est suivant sa propre écriture, va désigner l'étude des relations qui unissent les organismes vivants. Il va substituer ce terme écologie à celui de biologie, qui était introduit en 1802 par Lamarck, et qui avait un sens beaucoup plus global, et surtout, pour Haeckel, non darwinien. Car évidemment, Haeckel tient à ce que le mot intègre la biologie darwinienne. Ernst Haeckel va utiliser aussi le terme de monde extérieur environnant, englobant à la fois les conditions extérieures et le milieu. Avec Haeckel, l'écologie devient donc une science de l'habitat des espèces. Seulement voilà, son idée s'arrête là. Il ne fera jamais aucune contribution à cette discipline qu'il vient de définir, l'écologie, car zélateur du darwinisme, Haeckel n'est pas le père de l'écologie. Il a juste inventé un mot nouveau dont il se désintéresse parce qu'il préfère étudier l'évolution des espèces et qu'il s'enthousiasme pour le darwinisme et notamment la concurrence, la lutte pour la vie au sein du darwinisme. C'est aussi que le darwinisme ne s'entend pas bien avec l'étude des interrelations entre espèces. Toute relation a été une fois pour toutes définie comme concurrente ou comme prédatrice pour pouvoir s'inscrire dans les termes de l'évolution darwinienne.
Le fameux struggle for life.
Oui, c'est ça, la lutte pour la vie, effectivement. Dès lors, l'écologie ne reflète pas cette lutte pour la vie, eh bien, elle va être forcément ignorée. En fait, Haeckel va tout simplement l'ignorer. Elle ne lui apparaît pas utile. Il a aussi un nom associé avec les débuts de l'eugénisme, Haeckel, hein, même s'il ne arrêta pas son travail scientifique, publiant essentiellement des ouvrages de vulgarisation qui exposaient ses propres réflexions. Alors, il reste aujourd'hui de Haeckel qu'il proposa le premier l'idée de l'origine commune de tous les organismes. En fait, Lamarck en avait déjà un peu parlé, mais c'est une idée qui est à l'origine du concept des arbres phylétiques. Haeckel est le premier constructeur des arbres. En revanche, les travaux qui portent sur l'observation de relations existant entre les animaux et entre les plantes ont une très longue histoire qui débute bien avant l'invention du terme écologie. De Linné à Buffon, déjà les biologistes décrivent ces interrelations et en détaillent l'importance. La description des interactions va rester toutefois à un stade pré-écologique parce qu'il va y manquer l'essentiel. L'idée d'une relation structurale, mais surtout d'une relation fonctionnelle entre tous ces êtres vivants.
Vous écoutiez Ma Planète par Betty Boops. Bonjour, nous voilà sur Radio Libertaire, une radio associative, pas comme les autres. Et dans cette émission scientifique faite pour les aventuriers de l'esprit, science sans liberté, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous penchons toujours sur l'idée d'écologie, savoir comment cette discipline scientifique a fait son entrée dans la biologie. Et il apparaît bien que l'itinéraire n'est pas rectiligne. Après avoir bien développé des intuitions depuis l'inné ou Buffon, nous avons vu que Kell, darwinien très zélé, donna le mot « écologie » puis s'en désintéressa pour se consacrer à l'évolution biologique.
Eh oui, Siona, si le mot écologie a donc été inventé par Haeckel, l'écologie ne provient absolument pas de ce personnage. Haeckel s'est contenté de donner ce nom à une définition, à une science de l'habitat des espèces. Mais pour lui, comme pour tous les darwiniens de son époque, ce cadre est inactif, inerte, et n'apporte rien à la compréhension de la nature. D'ailleurs, tous les darwiniens actuels le pensent aussi. Le terme écologie proposé par Haeckel n'a pas eu beaucoup d'impact dans l'immédiat. Notons qu'il était en concurrence avec celui de mésologie ou théorie des milieux. Il faut donc revenir, encore une fois, sur les relations entre les espèces avant de parler de science écologique.
Pourtant, Darwin, en 1859, ouvre la biologie en insistant sur l'évolution des espèces. De nombreux auteurs insistent sur la vision écologiste de Darwin. Il s'intéressait aux relations entre espèces et on dit dans des livres scolaires qu'il fut un précurseur de l'écologie scientifique. En tout cas, il est toujours nommé comme un des contributeurs essentiels à l'écologie.
Alors, c'est tout à fait vrai, Siona. La popularisation, voire même la déification de Darwin n'est d'ailleurs pas du tout innocente à ce sujet. Bien que la grande majorité des chercheurs en écologie n'abordent même pas le darwinisme jusque dans les années 60, Ernst Mayr a développé l'idée que la contribution de Darwin a été décisive en écologie. La plupart des histoires de l'écologie placent même le darwinisme comme une des étapes importantes dans le développement de la science écologique. Par exemple, il y a un livre qui raconte que l'un des pionniers, Darwin, par ses recherches sur les vers de terre en 1881. C'est dire que la théorie darwinienne est devenue si dominante qu'on en intègre partout les éléments, quitte même à relever des prémices de ceci ou de cela chez l'auteur de l'origine des espèces. Pourtant, ce n'est pas du tout pertinent. Cette surestimation du rôle de Haeckel et de Darwin n'est pas seulement une erreur, c'est une faute qui masque la construction des concepts de l'écologie. Darwin ne se situe même pas dans une perspective proto-écologique comme le faisait Buffon, car il ne confère aucun rôle aux facteurs de l'environnement et ne parle que d'external conditions, même si cela est souvent traduit par milieu. Ça s'appelle des conditions extérieures, des conditions externes. C'est vraiment le maximum qu'il peut dire. Sa seule contribution pourrait être trouvée dans l'hypothèse de barrières géographiques naturelles qui limiteraient l'expansion d'une espèce. Ces barrières géographiques sont censées diviser les espèces en de nouvelles espèces puisque c'est selon lui le principe même de la spéciation. Mais c'est très faible, d'autant que ces fameuses barrières géographiques sont très rares et ont d'ailleurs un rôle quasiment marginal, même en biologie évolutive.
Oui, mais c'est tout de même une piste que Darwin a explorée. Bon, on sait, les lecteurs te connaissent par rapport à Darwin. Oui. Donc, retraçons, l'écologie découle de concepts et de travaux de géographie, en fait, non ?
Oui, c'est ça. La notion d'environnement va exprimer d'abord un extérieur aux organismes, un habitat. Au contraire, la mésologie ou l'étude des milieux de Comte ou de Reclus va annoncer une position d'association entre des paramètres
et
des êtres vivants.
Et plus que collaboratif, voilà. Quelque part.
Et même entre les êtres vivants, ce qui est donc épistémologiquement beaucoup plus approprié. Mm-hmm. Car oikos, l'écologie, ça veut dire la maison. Pourtant, on n'étudie pas la maison où l'on vit, mais bien les relations qu'on a avec les autres. C'est cela l'écologie.
En fait, cette notion est apparue quand ?
Alors, la naissance de l'écologie découle en fait de travaux de botanique depuis le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Et l'écologie est devenue totalement indépendante de la théorie évolutive darwinienne, surtout à l'époque. C'est d'ailleurs aussi une grave lacune de l'écologie d'avoir en partie ignoré l'évolution biologique lamarckienne, car elle a ensuite accepté le darwinisme sans aucun discernement. Bien que de nombreux concepts apparaissent totalement contradictoires avec l'écologie. En fait, la plupart des travaux fondateurs de l'écologie au XIXe siècle ont été élaborés dans un cadre lamarckien qui s'est poursuivi bien au-delà du début du XXe siècle. Et si la biologie est restée enthousiasme pour Darwin, on sait qu'elle n'a pas été tendre avec Lamarck et ses successeurs. Aussi, l'écologie s'est-elle un petit peu étouffée. Darwin a certes étudié quelques relations particulières, comme la pollinisation, mais dans un cadre évolutif. Et même dans ses derniers ouvrages, il n'utilise jamais le mot et jamais la notion d'écologie. Il ne parle toujours que de conditions extérieures. Par exemple, il conçoit que la trompe des papillons puisse être longue quand le pistil de la fleur pollinisée est long. Mais s'il constate le fait, Il n'intègre pas l'idée que le lien entre les deux puisse dépendre d'autre chose que de la struggle for life. Les papillons à trompe courte ont été contre-sélectionnés, tandis que les papillons à trompe longue ont gagné la fameuse sélection naturelle, d'après Darwin.
Alors raconte-nous cet épisode. Que se passe-t-il exactement ?
Eh bien, en fait, cette histoire de papillon commence en 1860, quand le naturaliste anglais James Bateman envoie à Charles Darwin les fleurs d'une orchidée de Madagascar, tout à fait époustouflantes. Ces fleurs sont très longues et elles sont creuses sur près d'une trentaine de centimètres. Et cependant, il y a du nectar. Donc, oui. S'il y a du nectar, il faut que quelqu'un le boive. Mmh. Il doit donc exister un papillon disposant d'une trompe qui ferait 30 cm de long, qui serait le pollinisateur privilégié de cette orchidée infernale. Alors, évidemment, ça paraît tout à fait stupide, mais pourtant Darwin va s'empresser de publier cette hypothèse. Un tel papillon doté d'une trompe de 30 cm pourrait-il voler ? C'est une déduction qui semble bien farfelue.
Mais on découvrit ensuite un papillon avec une très longue trompe, si je ne m'abuse.
Eh oui, en 1867, Alfred Ruffel Wallace, celui qui a inventé, initié la théorie de la survie du plus apte en évolution, conjointement avec Darwin, a publié que le papillon sphinx d'Afrique, le Xanthopan morgani, possédait une trompe assez longue pour que cette orchidée de Darwin puisse être pollinisée. Il fit donc l'hypothèse qu'un sphinx équivalent devait aussi exister à Madagascar, affirmant que l'existence d'un tel papillon à Madagascar peut être prédite avec certitude et les naturalistes qui visitent cette île devraient le chercher avec autant de confiance que les astronomes ont cherché la planète Neptune. Mais ce n'est qu'en 1903 que fut découvert le fameux papillon qui confirmait l'idée de Wallace. Il s'agissait du sphinx, donc Xanthopan morgani. On l'a ensuite nommé Predicta, en l'honneur de l'intuition de Darwin, on aurait pu aussi dire en l'honneur de la prédiction de Wallace, mais cette prédiction morphologique est donc tirée d'une vision totalement adaptationniste.
C'est une histoire étonnante, une longue fleur qui attend la trompe d'un papillon, l'un est adapté à l'autre finalement.
Oui, il s'agit même d'une co-évolution adaptative, ce qui n'est d'ailleurs pas rare dans l'évolution de la pollinisation. Car nous le verrons, l'évolution est finalement une écologie évolutive et pas seulement une histoire des adaptations. Mais il faut dire que l'adaptation c'est un concept très ancien, très en vogue depuis l'Antiquité. Alors on a toujours constaté que des espèces se répondaient en quelque sorte, que les unes dépendaient des autres. Et l'adaptation est le mot qu'on a placé sur ces phénomènes organiques qui permettent ces relations. Par exemple, des crocs pour manger de la viande, une fourrure pour résister au froid, ou bien une trompe pour sucer une fleur. Le terme adaptation signifie simplement que les deux espèces sont corrélées les unes aux autres. Lucrèce, déjà au IIe siècle, détaille combien les animaux et les plantes sont adaptés les uns par rapport aux autres. Alors on retrouve cette idée chez Buffon, chez Daubenton, ou même chez Charles Lyell, par exemple, qui était un Lamarckien bien connu. C'est un terme statique qui repose sur l'observation simplifiée des interactions entre des organismes vivants entre eux.
Donc, avant Darwin, de nombreux naturalistes avaient déjà décrit des adaptations des espèces. Hein.
Alors tout à fait, ça faisait même partie de la biologie. La description d'une espèce ne s'est jamais faite sans supposer que ses particularités organiques avaient une signification. C'est une évidence. Bien avant Darwin, de nombreux biologistes ont proposé des prédictions adaptatives. Tous ont spéculé sur le rôle de l'organe d'une espèce. Des ailes transformées en nageoires chez les manchots, par exemple. La diminution des poils chez les dauphins. Ou le cou de la girafe, bien sûr. Par exemple, il a été prédit que l'Archéoptérix devait avoir des dents. Que les plantes des déserts n'auraient plus de feuilles, etc. La plus connue des biologistes dont les prédictions ont été réalisées est un Lamarckien, c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui a même développé une théorie des corrélations de caractères et qui a montré qu'il ne se crée jamais aucun nouvel organe et que lorsqu'un organe se développe, cela se fait toujours au détriment d'un autre. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est un personnage remarquable qui a défendu l'évolution lamarckienne dès 1820 et l'idée d'une parenté entre l'ensemble des organismes vivants, ce qui est devenu le concept majeur de la théorie de l'évolution et qui a été repris ensuite par Haeckel sous la forme des arbres.
L'anecdote du sphinx à longue trompe n'est donc pas de l'écologie darwinienne.
Ben non, c'est juste le reflet spéculatif de ces fameuses relations qui sont absolument nécessaires entre les organismes. Alors malheureusement, en oubliant l'écologie et sa nature, cette anecdote du sphinx de Madagascar sert aujourd'hui plutôt à glorifier des intuitions darwiniennes en éclipsant à la fois Wallace d'ailleurs et les autres précurseurs et même l'intérêt écologique de la chose, parce qu'on ne nous parle toujours que de la prédiction de la trompe du papillon, on ne nous dit pas en quoi cela participe d'une évolution adaptative. Notons bien que cette prédiction morphologique de Darwin était fondée sur une hypothèse extraordinairement simpliste de l'adaptation et de la sélection naturelle. Les papillons à longue trompe aurait eu un avantage sélectif parce qu'il récolte plus de nectar. Tout ça, c'est si on considère la sélection naturelle. Ah oui, mais voilà. En 2007, des chercheurs Justin B. Whitehall et Scott A. Hodge de l'Université de Californie ont proposé une nouvelle hypothèse. À partir d'une analyse phylogénétique chez une renoncule, ils sont arrivés à la conclusion que l'allongement du nectaire de la fleur serait une réponse de l'orchidée à la morphologie du papillon et que ce phénomène serait ponctuel durant la spéciation. La sélection n'interviendrait donc pas comme l'avait supposé Darwin. Mais il y a plus d'écologie dans tout ça que de reconnaître que les espèces sont liées les unes aux autres, ce que l'on savait quand même depuis belle lurette et bien avant le Moyen-Âge.
Donc l'écologie n'existe pas dans le darwinisme. Elle fournit juste un cadre. C'est au mieux une géographie écologique, un environnement inerte.
Oui, tout à fait. D'après Darwin, l'environnement sont des conditions extérieures totalement inertes qui filtrent en quelque sorte l'évolution de chaque espèce et qui conduisent chaque espèce à avoir ce qu'il appelle une évolution. Puisque l'évolution darwinienne, c'est toujours la concurrence de ceux qui sont les mieux équipés par rapport à ceux qui le sont le moins. Mais après toutes ces premières pérégrinations, l'écologie va enfin se sortir de l'ombre où les darwinistes l'ont relégué. Le darwinisme est totalement absent de l'élaboration de toutes les thématiques écologiques, rappelons-nous. Avec le concept de biocénose, Möbius va inventer en 1840 puis en 1877 l'idée que les organismes se rassemblent, qu'il existe donc des assemblages non concurrentiels. Il ne se contente pas d'annoncer que de tels et tels organismes vont vivre côte à côte. Il en décrit l'intérêt fonctionnel. Les huîtres ne sont pas seulement accrochées aux rochers pour survivre. Elles partagent leur vie dans une autre communauté d'êtres vivants où chacun va avoir un rôle, on dirait aujourd'hui une fonction écologique, une niche écologique. Un étang, par exemple, va rassembler une communauté d'animaux, une communauté de plantes, où chacun va jouer un rôle essentiel. La découverte des communautés d'organismes va changer bien des choses dans l'idée qu'on se faisait de la biologie. Notez bien qu'on ne découvre les communautés de bactéries au sein de notre corps qu'aujourd'hui, en 2010. On voit très bien que nous sommes encore très en retard sur cette idée des communautés. Il semble pourtant que ces assemblages vont perpétuer le même équilibre d'une mare à une autre mare, que les êtres vivants ne peuvent vivre qu'avec certains autres vivants parce que collectivement, ils forment un ensemble cohérent. C'est ça qui est remarquable dans l'idée de la communauté ou de la biocénose, comme l'appelle Möbius, c'est que d'une mare à l'autre, on va retrouver les mêmes communautés, bien qu'ils sont composés d'espèces totalement différentes, les unes par rapport aux autres.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessous, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit : « Je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. » Sur sa bouche en feu qui criait « Sois sage », il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, il fera bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Nous poursuivions la chasse aux papillons par Brassens. Dans cette émission de Science en Liberté, nous nous intéressons à la naissance d'une idée. L'idée d'écologie. Les chercheurs scientifiques ont spéculé sur les interactions entre espèces pour comprendre les relations entre elles et petit à petit il se construit une science des équilibres. Mais on n'utilise toujours pas le terme écologie, Thierry ?
Oui, c'est un peu ça, Siona. En fait, l'analyse la plus convaincante montre que jusqu'au début du XXe siècle, les fondateurs de l'écologie n'inscrivent pas leurs travaux dans un cadre darwinien, mais plutôt dans une biogéographie qui ne s'intéresse pas vraiment à l'adaptation, alors qu'elle s'intéresse plutôt à l'analyse des processus. On peut ajouter que la conception de l'adaptation directe d'un certain nombre d'écologues ou de pré-écologues est très proche de celle de Lamarck. L'auteur de la première théorie évolutionniste à l'aube du 19e siècle, puisque c'était en 1799. Eugène Warming, fondateur de la science écologique, comme on va le voir, adopte lui la théorie de l'adaptation directement venue des idées de Lamarck. Et plus tard, des autres grands écologues vont se réclamer encore du lamarckisme, tout ça avant la Seconde Guerre mondiale, avant 1945. Et c'est même encore le cas en 1945 avec l'un des représentants de l'écologie nord-américaine, Frédéric Édouard Clément.
Revenons sur le chercheur qui invente l'écologie moderne. C'est donc Warming.
Oui, c'est ça, Eugène Warming. Après que Möbius ait insisté sur l'ensemble des biocénoses et des communautés, Warming va reprendre l'étude des communautés. En 1895, le botaniste danois, donc Eugène Warming, publie le premier traité de géographie botanique et c'est lui qui va utiliser le terme écologie dans son titre. Ce terme, il l'a emprunté à Haeckel, qui avait inventé le terme pour décrire l'habitat des espèces qu'il étudie, mais qui avait évité ensuite de l'utiliser. Conférencier à l'université de Copenhague, Warming va étudier entre 1844 et 1870 la végétation tropicale du Brésil, ainsi que la flore du Groenland, qui est une terre danoise à l'époque. Enfin, il revient ensuite au Danemark pour enseigner et diriger le jardin botanique. Et comme il va monter ce jardin botanique, il va évidemment vite comprendre, Warming, qu'il y a des relations entre toutes ces espèces. C'est un conservateur, nationaliste. Warming va remplacer la géographie des plantes des chercheurs de son temps par la fameuse écologie de ce chercheur allemand qui était lui-même conservateur et extraordinairement nationaliste, Haeckel.
Mais quelles histoires de nationalistes. En fait, pour revenir à Warming, il fait la synthèse des connaissances acquises en géographie botanique, mais il propose en outre d'étudier les communautés végétales.
Oui. L'ouvrage de Warming, Plantenbunger, c'est un, j'ai pas l'accent danois pour la prononcer, Grundtrak Absen ökologische Plantengeographie, est traduit en allemand en 1896. Je vous donne pas le titre allemand également. C'est une édition augmentée et remaniée qui va paraître en 1909 sous le titre anglais de The Ecology of Plants. Là, il décrit les facteurs de l'environnement qui vont influencer les peuplements. Un peu comme Haeckel aurait fait de l'environnement quelque chose de condition d'extérieur qui influencerait les plantes, lui, il va utiliser ces facteurs de l'environnement pour influencer non pas des espèces, mais des peuplements. La température, la lumière, l'humidité. Mais il en dégage une intuition très habile. Il veut classer les communautés végétales en fonction de la présence d'eau dans le sol. Donc en analysant l'importance de ce facteur humidité, il va proposer de nommer hydrophytes les plantes qui ont besoin d'humidité, et de nommer xérophytes, celles qui vont rechercher au contraire la sécheresse, l'aridité. Ce gradient d'humidité, humidité vers sécheresse, va donc expliquer l'agencement des plantes dans les communautés végétales. Et donc c'est le long de ce gradient que Warming va s'intéresser à établir que ces communautés se succèdent en fonction de leur proximité de l'eau, toujours en fonction de ce degré humidité-sécheresse. Et ce sera ce qu'il va nommer par la suite des successions végétales. Il n'y a donc pas du tout de vision phytosociologique, mais au contraire une vision plutôt géographique.
Les successions végétales sont donc des végétaux d'espèces différentes, mais qui vivent ensemble et qui se succèdent selon un processus naturel.
Oui, tout à fait. C'est cela qui fait de ces rassemblements non pas des simples coïncidences spatiales ou temporelles, mais de vrais ensembles naturels. Elles sont étagées en succession et non pas dans le temps. Elles sont donc étagées dans l'espace géographique. Les successions sont des communautés étagées d'une même façon, selon le gradient qui explique du coup les équilibres de ces groupements. Par exemple, autour de la mare vont se succéder des séries de végétaux qui suivent chacun ce gradient d'humidité. Et au fur et à mesure que ce gradient d'humidité diminue, eh bien évidemment, les successions végétales vont différer. Donc par rapport à la biocénose de Möbius, qui, elle, exprimait un ensemble de rapports d'interactions fonctionnelles entre les organismes. Le concept de succession végétale décrit l'étagement des communautés selon des facteurs environnementaux. Ça va donc beaucoup plus loin que l'idée de Haeckel, qui désignait juste les conditions extérieures, ce qu'il a appelé l'habitat des êtres vivants. Hein, l'écologie, ça serait la maison pour Haeckel. Avec Moebius, on a une constatation du rôle essentiel des interactions qu'ont les êtres vivants entre eux. La communauté est devenue quelque chose de fonctionnel. Et avec Warming, la succession végétale va être dépendante de facteurs environnementaux qui en expliquent l'assemblage. Il va parler des mésophytes, plantes intermédiaires qui ont besoin d'humidité, les oxylophytes qui vivent dans des sols glacés, les halophytes qui sont des plantes tolérantes au sel. Warming
est donc... avec plantes, enfin, pour les auteurs, c'est vrai que tu nous emploies des termes à suivre.
Ce sont des termes botaniques, oui. En fait, on voit que si Warming est considéré comme le fondateur de l'écologie scientifique, c'est parce qu'il utilise une fois le terme d'Haeckel, mais la première écologie de Moebius et de bien d'autres chercheurs va d'abord être végétale, géographique, mais déjà, au début, elle va commencer par des hypothèses de fonctionnalité.
Ainsi, l'écologie est donc fondée sur des assemblages qui forment des ensembles liés à leur environnement. Cela reste de la géographie végétale comme un habitat.
Et oui, c'est pour ça que Warming va utiliser principalement ce terme d'écologie. Il s'intéresse aux interrelations des végétaux et des animaux, mais il va identifier plus d'une douzaine de ces interrelations. Et il comprend très bien que ces interrelations vont être fondatrices des faunes et des flores. Par exemple, le commensalisme, ou encore la symbiose, les mutualismes, les parasitismes, qui vont relier d'une manière particulière les espèces entre elles dans des relations fonctionnelles et qui débordent largement du cadre de la concurrence darwinienne. Aujourd'hui, on sait que ces interactions ne sont pas à sens unique et qu'elles n'existent que dans des gradients d'effets. C'est beaucoup plus fort que la concurrence darwinienne qui se résumait à tout ou rien. Hein, c'est la sélection, on sélectionne ou pas. Les interrelations entre les organismes vont donc devenir maintenant un élément essentiel de l'écologie. Les êtres vivants ne sont pas seulement distribués dans un habitat, mais ils établissent des relations entre eux. Ainsi, Warming va déclarer « La géographie écologique nous enseigne comment les plantes et les communautés végétales ajustent leur forme et leur comportement aux facteurs effectivement agissants, tels que les quantités d'eau, de chaleur, de lumière. La tâche la plus urgente consiste à répondre à la question « Pourquoi chaque espèce a ses propres habitudes ?» On voit que dans ces termes-là, il n'y a pas de sélection naturelle, il n'y a pas de darwinisme, il n'y a pas de concurrence, mais bien des interrelations. En revanche, Warming va rester dans un cadre totalement lamarckien, ignorant quasiment totalement Darwin. En fait, il ne va écrire que 18 lignes au total de toute son œuvre sur Darwin, et c'est en 1909, en insistant d'ailleurs sur l'adaptation structurale des plantes qu'il croit être le grand principe darwinien.
Le succès de ces approches écologiques va être très important en Europe.
Oui, tout à fait, Siona, ça va même être primordial. Ainsi, on va voir François-Alphonse Forel, qui va étudier avec beaucoup de minutie les relations entre les organismes et les facteurs qui vont influencer leur distribution. Alors, il fait cela dans le lac Léman, et il va inventer ce qu'il va nommer en 1892 l'océanographie des lacs, ou encore la limnologie. Le lac va être considéré comme un ensemble en soi. Ça change tout. C'est un îlot aquatique au milieu des terres. Mais il ne s'agit pas que d'une entité structurale, un assemblage qui va former une organisation. Il s'agit bien au contraire d'un ensemble fonctionnel. Ça veut dire que chaque être vivant va être lié à un autre dans un ensemble particulier qu'on appellera une communauté, où là, chacun va dépendre des autres.
Nous avons vu les énormes contributions de deux chercheurs, Karl Moebius, pour la découverte des communautés, et Eugen Warming, pour celle des facteurs écologiques. Mais comment ces recherches sont-elles négligées par les évolutionnistes de la fin du 19e, et notamment par les fameux darwiniens?
À l'époque, en fait, la plupart des chercheurs ne différencient pas vraiment le darwinisme, qui reste pour eux une forme de lamarckisme. Il faut bien penser qu'il faut attendre vraiment le début du XXe siècle pour qu'on commence à considérer que Darwin a peut-être quelque chose d'un peu différent. Et même Charles Lyell, qui a introduit le lamarckisme en Grande-Bretagne, mais qui soutient Darwin, entreprend une correspondance assez importante avec les premiers écologues, dont il reconnaît, lui, immédiatement l'intérêt. Mais ni Moebius, ni Warming, ni Forel ne citent jamais Darwin. C'est en fait parce qu'à l'époque, tout simplement, Darwin n'est pas considéré comme un biologiste important dans l'étude des interrelations. C'est un peu exagéré de qualifier l'écologie de lamarckienne, mais l'écologie n'est en tout cas pas darwinienne.
Mais pourquoi le darwinisme, dont les biologistes disent qu'il est une révolution à l'époque, n'est pas intégré ?
D'abord, peut-être parce que ce n'est pas vraiment une révolution, contrairement à ce qu'on pouvait supposer. Et ensuite, parce que les biologistes de l'époque ne distinguent pas vraiment la différence avec l'évolution telle qu'elle a été proposée par Lamarck. Darwin n'insiste que sur la concurrence. Il s'agit donc d'une sorte de complément à l'idée absolument extraordinaire de l'évolution des espèces. Mais c'est un complément qui est difficile à utiliser d'un point de vue pratique, parce qu'il surestime totalement cette concurrence. Or, justement, les écologues étudient la relation entre les plantes qui ne vont pas s'étouffer l'une l'autre, qui ne vont pas se tuer l'une l'autre. Il faut donc surtout considérer la théorie de la sélection naturelle comme étant une théorie qui est difficile à utiliser. L'habitat est d'ailleurs conçu par Darwin comme filtre passif des variations, et la sélection est simplement le résultat de la concurrence, une concurrence acharnée de la struggle for life entre les individus. Au contraire, avec l'écologie, la concurrence n'est plus qu'une interaction parmi des tas d'autres, et l'habitat, l'environnement, est quelque chose d'actif sur la présence des espèces. On a d'ailleurs beaucoup de mal à savoir si l'environnement est vivant, puisque l'habitat des animaux va être constitué par les plantes, etc. Que ce soit Möbius, Forel et même Warming, ils sont vraiment les découvreurs de l'écologie scientifique. Mais ce nouveau point de vue reste totalement séparé de la théorie évolutive de l'époque, puisque en fait, les interactions semblent assez stables. Ces premiers écologues baignent davantage dans le lamarckisme. Réciproquement, les évolutionnistes darwiniens ne s'intéressent pas à cette science des relations entre les organismes, puisqu'elle ne met pas en compte la variation des espèces, ni même leur évolution. Au contraire, les écologues vont s'intéresser à l'économie des plantes, aux moyens utilisés pour adapter leur structure et leur physionomie, et donc un thème très très lamarckien.
Mais qui est tourné vers une vision très moderne et très globalisante de la biologie ?
En effet, mais c'est l'idée des faunes et l'idée des flores qui sont associées et qui peuvent disparaître tout d'un coup dans de grandes catastrophes qu'on va retrouver, ce qui est totalement moderne actuellement. Hein. Mais l'idée est aussi qu'on peut reconnaître des régularités dans la disposition des organismes dans la nature. La répétition de ces régularités, de ces assemblages, révèle bien un niveau d'organisation différent. Ainsi, la succession végétale d'un étang. C'est donc un point de vue en effet très holistique, très globalisant. Le tout est donc davantage que les parties. Alors que la biologie, elle est restée au contraire à l'époque très réductionniste. Cette approche holistique va à la fois faciliter la compréhension des organismes d'êtres vivants, de l'ensemble des faunes, de l'ensemble des flores, de l'établissement de leurs relations complexes et apparemment équilibrées. En même temps, elle va évidemment limiter l'intérêt d'un réductionnisme absolu. Que ce soit chez Warming ou chez Möbius, l'étude de la nature exige un point de vue beaucoup plus général. Par exemple, Möbius déclare en 1877, deux points ouvrez les guillemets, toute modification d'une biocénose produit des modifications d'autres facteurs, et c'est toute la biocénose qui est transformée. Et la biocénose serait aussi transformée si le nombre d'individus d'une espèce augmentait ou disparaissait à cause de l'intervention de l'homme.
On va même parler imprudemment d'équilibre naturel.
Alors, il faut vraiment s'arrêter sur cette phrase de Möbius en 1877 parce qu'elle contient la totalité des hypothèses de base de l'écologie. Hypothèses qui sont d'ailleurs tout à fait imprudentes. Hein. Alors, déjà, Linné parlait d'équilibre de la nature. Mais oui, l'écologie va devenir, à partir de Möbius, une science des équilibres de la nature. Pourtant, l'équilibre est vite une idée qui empoisonne l'écologie. La source du paradoxe réside dans le double contenu du concept d'adaptation, considéré comme un phénomène statique par les écologistes et comme un processus dynamique par les évolutionnistes. Voilà ce que nous dit Pascal Accotte en 1997, dans l'article sur l'écologie précoce. Alors Pascal Accotte est un historien des sciences et il s'est ensuite clairement égaré dans un débat climato-sceptique. Mais bon, son histoire de l'écologie est-elle très détaillée et très très bien documentée ?
L'équilibre écologique insère une idée effectivement de stabilité finalement, voire même d'immobilité, alors que l'évolution est le fondement de la biologie et donne une idée plus
dynamique,
qui bouge. Oui, tout à fait.
C'est tout à fait ça. Hein. Le darwinisme incorpore l'idée d'équilibre, de régulation, mais sous un mode populationnel. Alors il faut bien penser que pour Darwin, la formation d'une espèce, c'est quand même une formation équilibrée à un moment donné. L'évolution va être continue par des petites variations de caractère, mais qui sont dépendantes du filtre de l'environnement. Donc il faut que quelque chose bouge, soit l'environnement, soit l'espèce, pour que les choses se passent. Tout n'est pas très très clair sans cette force qui serait la concurrence et qui serait la force absolue permettant de faire que tel caractère va apparaître ou disparaître, ou du moins va rester ou ne pas rester. Mais sans variation environnementale, évidemment, on a du mal à expliquer autre chose que d'équilibre. Alors Darwin explique que si on veut donner à la plante un accroissement en nombre, il faudra lui donner quelques avantages sur ses compétiteurs ou sur les animaux qui s'en nourrissent. On voit donc que le raisonnement suit totalement le mode de croissance des populations limitées par leur environnement. C'est typique de la pensée de Malthus. Malthus qui suppose que les limites du milieu vont réduire l'expansion des populations en entraînant la mort des individus en surplus. C'est cette idée-là qu'a appliquée Darwin à travers l'hypothèse de la concurrence. Clairement, Malthus a construit sa théorie contre les thèses républicaines de Condorcet et contre les progressistes libertaires comme Godwin, par exemple. Ça, c'est Philippe Pelletier qui nous explique ça. Il faut se souvenir que cette notion malthusienne a été totalement contredite dans les faits. La courbe de croissance est logistique et non pas exponentielle. Et par conséquent, on ne peut pas retenir cette hypothèse malthusienne. Mais si, dans l'hypothèse darwinienne, cette dynamique est entravée par l'habitat, elle paraît aussi néfaste et répond seulement à la notion de compétition. Voilà pourquoi, avec Darwin, on va vite sombrer dans le darwinisme dit social, hein, celui de la compétition à tout craint et de l'eugénisme. L'environnement reste inerte et limitant. L'environnement est conçu comme un habitat dont il y aurait des tas de qualités à extraire, des richesses et des ressources à extraire, mais la qualité va donc entraver ou avantager certains individus. Et leur mode de vie peut être considéré comme indépendant, comme acquis dans l'évolution, à travers la concurrence darwinienne de la lutte pour la vie. Ce n'est donc pas du tout d'écologie. Bon, d'ailleurs, Élisée Reclus, dès 1910, ajoutait « Cette loi prétendue, d'après laquelle les hommes doivent s'entremanger, n'est pas justifiée par l'observation. C'est au nom de la science que nous pouvons dire au savant Malthus qu'il s'est trompé. »
Oui, et pour faire une idée scientifique de l'écologie, il faut un concept dynamique. Établir le rôle des relations et pas seulement dire qu'elles existent.
Oui, parce que jusqu'à présent, ces relations sont proposées comme étant des formes de stabilité. Et pour faire réellement l'écologie, il faut progressivement passer l'idée de la place des individus dans un habitat, ce qui d'ailleurs dit le mot écologie, hein, selon la conception très primitive de Haeckel, à une science des communautés, qui d'ailleurs tendrait plus à dire que c'est de la mésologie. Stephen Alphonse Forbes, par exemple, écrit en 1880 « L'écologie comme la science des communautés dans leur environnement ». Et il va rédiger un article fondateur en 1880, « Quelques interactions des organismes, etc. » Et jamais lui-même ne se réfère encore à Darwin. Cette définition d'écologie montre l'incroyable pertinence de la discipline qui est en progrès constant depuis que Buffon a révélé cette existence des interactions.
Mon vieux, les roses et les choux, aujourd'hui tout le monde s'en fout, et même les cigognes n'amusent plus personne. Avec leur petit baluchon, est-ce une fille ou un garçon? Ça nous fait perdre un temps fou, vite, vite, on veut tout savoir tout de suite. Tout de suite on veut savoir tout. Ras-le-bol des pochettes surprises, ce qu'il y a dans tout faut qu'on nous le dise. Faut du Père Noël qui veut faire du zèle avec ses papiers cadeaux, qu'il faut défaire cet idiot. Ça nous fait perdre un temps fou, vite, vite, on veut tout avoir tout de suite. Tout de suite, on veut avoir tout. Ce qu'il faut, c'est communiquer, nous v'là tout ombiliqué. On s'envoie des ondes, et devant tout le monde, on dit, allô, tu m'entends? J'ai rien à te dire d'important. Ça fait gagner un temps fou, vite, vite, on veut rien se dire, mais tout de suite. Tout de suite, on se dit rien du tout. On est partout en même temps, à New York, au Pakistan, tout sanglant, tout chaud, le monde fait son show. Nous posons pas trop de questions, c'est nul pour la digestion. Puis ça fait perdre un temps fou, vite, vite, donnons notre avis tout de suite. Tout de suite, un avis sur tout.
Il est 14.
Dire que pour faire des enfants, il faut attendre 107 ans. En plus, on tricote sans voir la camelote. Heureusement, les nouveau-nés, on va bientôt les cloner. C'est quand même plus chouette savoir ce qu'on achète. Ils seront si jolis, jolis, si doux, si polis. Ils s'appelleront Dolly, Dolly, ou alors Dolly, Dolly, et aussi Dolly, Dolly, ou encore Dolly, Dolly, et sinon Dolly, Dolly. Ils bêleront comme des fous, vite, vite. On veut devenir fou tout de suite. Tout de suite, on veut devenir fou. Tout de suite, on veut devenir fou.
C'était tout de suite par Michel Bernard. Nous voilà revenus sur l'apparition de l'idée d'écologie sur Radio Libertaire. En fait, Thierry, tu nous dis que l'écologie s'est donc développée sans le darwinisme, avec des chercheurs qui ont compris l'association des espèces dans des biocénoses comme Möbius ou dans des communautés comme Warming. Pourtant, cette notion d'équilibre paraît réduire la portée des travaux d'écologie. Pourquoi ?
En fait, la trame de ces travaux reste une sorte d'économie de la nature qui est fondée sur une vue très homéostatique. Alors ça, c'est Pascal Accotte qui nous redit ça dans la notion d'équilibre de la nature. Les biocénoses ou les réseaux trophiques, tout est calculé en termes d'équilibre. Si au début on va rester dans de la biogéographie, l'analyse des interactions et des assemblages va interroger plutôt l'aspect fonctionnel, ce qui introduit une idée d'équilibre. Comme cela reste ancré dans l'idée d'une adaptation statique chez les botanistes, hein, l'écologie des débuts n'a pas du tout besoin de Darwin. Les biocénoses semblent atteindre un niveau d'équilibre total, sans évolution. Le concept d'équilibre va rendre donc beaucoup plus difficile l'introduction d'une biologie d'évolution. Et l'écologie, qui pourtant est la science des relations, semble n'avoir donc pas besoin de cette histoire des espèces.
En effet, l'écologie est apparue comme la conception d'un monde où les milieux sont équilibrés, une planète Terre en parfaite harmonie écologique.
Il y a eu une évolution dans l'organisation des communautés. Mais les biocénoses restent des états d'équilibre. Darwin ne considère que l'environnement abiotique, l'habitat, comme une sorte de filtre passif. Mais le dynamisme des plantes, au contraire, se conçoit parfaitement dans un arrière-plan lamarckien, où l'influence des facteurs extérieurs fabrique, petit à petit, le changement évolutif, en fonction de l'évolution statique de chaque plante, en fonction de chaque élément, apparition de chaque organe, et de même la capacité à coloniser tel et tel endroit. Les organismes vont donc être dépendants de ces facteurs de l'environnement qui façonnent leur place, et leur communauté. On va retrouver des termes donc très lamarckiens, comme par exemple les habitudes qu'ont les plantes d'habiter à tel et tel endroit. Tout cela va ouvrir des perspectives d'éthologie botanique, la colonisation des milieux par exemple. En outre, l'entrée de la zoologie dans la discipline écologique va introduire d'autres concepts d'équilibration. On va parler d'équilibre entre les populations de parasites et d'hôtes, d'équilibre écologique entre prédateurs et leurs proies. Les écologues vont tenter alors de découvrir des modes de l'adaptation visibles que ces organismes mettent en œuvre pour vivre ensemble. On est donc très loin d'une vision brutale de la struggle for life darwinienne. Là, on a un point d'équilibre qui est atteint entre les êtres vivants et même entre les communautés. Et c'est ce que Warming va nommer le climax.
Le climax est un état équilibré des milieux ?
Oui, un équilibre fonctionnel. Le climax est le résultat attendu d'une non-évolution. La fin d'un processus de discontinuité. Par exemple, la forêt va coloniser l'étang. Et du coup, le milieu deviendra stable. Elle va le fermer et elle va terminer cette succession particulière des événements de colonisation. Ensuite, l'apparition assez précoce des préoccupations de conservation des espèces va aussi insister sur les équilibres naturels, présentant une sorte de nature statique qu'il faut protéger des actions perturbantes. Alors, c'est vrai que dans cette écologie-là, l'humain est un perturbateur qui rend malade des écosystèmes. Mais la nature ne supporte pas l'humain, ce qui va ouvrir la porte à une écologie politique culpabilisante, une idéologie économique de l'exploitation durable de la nature. Enfin, on en reparlera.
Mais l'habitat écologique reste un concept stable, voire même géographique, non ?
Qu'il soit géographique, oui, s'il y en a. Mais dans la réalité, le climax qui apparaît comme un état d'équilibre est un état d'équilibre introuvable, dont la conception révèle plutôt la nostalgie d'une nature inviolée. Évidemment, la forêt va fermer l'étang en le colonisant, en l'interrompant. Mais cette hypothèse, il faut la considérer comme une mécanique classique qui va considérer le mouvement d'inertie. C'est-à-dire comme une sorte de fiction théorique autour de laquelle on peut construire un modèle intelligible de la réalité, de sorte qu'il suffit ensuite d'ajouter des perturbations dont au départ on fait abstraction, pour retrouver les phénomènes observables. Tous ces phénomènes observables deviennent en quelque sorte des variables de l'environnement. Entre l'habitat et l'espèce, l'écologie va définir une relation, un ensemble d'interactions qui vont associer l'ensemble des facteurs du milieu, qu'ils soient abiotiques, biotiques, une autre espèce, etc. Mais évidemment, c'est plus un habitat statique qui nous est présenté. Mais en fait, petit à petit, ces éléments vont déterminer la place de chacun. On va parler de niche écologique.
C'est plus statique, cette notion de niche écologique, une relation espèce-environnement et pas une place physique pour l'espèce, hein.
Alors, à première vue, La niche paraît juste la place d'une espèce à l'intérieur d'un habitat. C'est un peu comme si on installait la notion d'équilibre grâce à une position que chacun occuperait dans l'espace. Mmh. Mais la niche écologique n'est pas la place d'une espèce. Elle tente d'incorporer des principes darwiniens de concurrence et d'évolution. Il faut donc la voir comme l'ensemble des conditions nécessaires pour qu'une population viable se maintienne et se reproduise. Ce concept de niche a été défini par Joseph Grinnell en 1917. Comme tout ce qui conditionne l'existence d'une espèce à un endroit donné. Alors ça inclut les facteurs abiotiques, température, humidité, précipitation, et des facteurs biotiques, nourriture, compétiteurs, prédateurs, refuges. Les espèces s'excluent les unes les autres selon leur niche écologique. On voit donc que la niche est un principe d'exclusion compétitive. C'est Charles Elton qui aura alors la plus grande influence sur le développement d'écologie moderne avec son livre « Animal Ecology » en 1927. Car chez Grinnell, comme chez la plupart, comme plus tard chez Elton, la niche écologique est une situation qui préexiste dans l'écosystème, indépendamment de son occupant. On pourra donc parler de niche vide. Hutchinson va en parler comme une sorte de patate à une dimension, où l'organisme est dépendant des conditions particulières pour assurer sa survie, la température, le milieu, les autres espèces, la lumière et tous les autres paramètres physico-chimiques, biologiques ou même sociaux.
La niche écologique est donc directement un élément de l'écosystème.
Oui, et en quelque sorte, l'écosystème comprendrait des niches plus ou moins disponibles et exclusives, et chacun pourrait venir s'y loger. Ce concept fabriqué par Elton retrouve l'idée de la compétition qui est si chère au darwinisme, et ça va permettre d'inscrire l'écologie dans le grand principe de la sélection naturelle. Pourtant, Elton, qui était darwinien convaincu, ne sait pas trop quoi faire du darwinisme lui-même, car ce sont les interrelations qui l'intéressent. Donc, finalement, sa biologie va sortir du darwinisme. Elton va proposer quatre grands principes qu'on retrouve encore de nos jours. Les chaînes alimentaires, aujourd'hui on parle de cascade trophique, le type de nourriture, le concept de niche et la pyramide écologique qui admet une concentration de l'énergie à son sommet avec les prédateurs, tandis que les herbivores restent tout en bas de cette pyramide. Alors ça reste une vision très populaire des processus écologiques. Ces quatre grands principes sont aujourd'hui tous contestés, sinon même carrément caduques. Mais ils ont eu une importance capitale pour construire la science écologique et organiser la quantification des échanges et des transformations de la matière vivante.
Les premiers travaux de l'écologie se sont donc avérés comme fournissant une explication erronée ?
Oui, en tous les cas, ils sont considérés comme périmés aujourd'hui. La niche écologique, les chaînes alimentaires ou les pyramides n'ont d'ailleurs réussi qu'à intégrer un darwinisme de façade, qui répète plus ou moins l'idée de la lutte pour la vie en des termes de concurrence et de compétition.
Mais cette idée fausse des équilibres, on la retrouve encore en écologie.
Non, elle a plus ou moins disparu d'écologie scientifique. Oui. Ce qui va enfin infléchir cette notion d'équilibre, c'est la mise en œuvre des calculs de flux et de migration. Tout ce qui va montrer que les communautés et les assemblages restent des éléments ouverts les uns sur les autres. L'étang, le lac sont directement influencés par les terres, par le bassin versant, et la prairie se fait coloniser par la forêt. Sur le même modèle que la physiologie, hein, qui n'est pas du tout évolutif, on va élaborer des modèles dynamiques, comme celui de Locta Volterra, par exemple, qui font faire des statistiques de flux. Ces équations de Locta Volterra sont un modèle proie-prédateur, mais qui ne sont pas linéaires, et qui servent à décrire la dynamique des systèmes biologiques dans lesquels un prédateur et sa proie vont interréagir. On est donc sorti des visions malthusiennes. Elles sont proposées indépendamment par Alfred James Locta, en 1925, et par Vito Volterra en 1926. Le monde va alors apparaître comme une sorte de machine thermique gigantesque, dont l'énergie va se disperser, va se re-recycler. C'est ce qu'on va appeler petit à petit un écosystème.
Mais en fait, l'écologie s'est imposée avec des concepts caduques. Mais y avait-il d'autres chercheurs qui avaient proposé des concepts différents ?
Oui, il y a eu d'autres chercheurs qui ont souligné l'importance des interactions dans la nature, notamment Piotr Kropotkin, dans son ouvrage très célèbre « L'entraide comme facteur d'évolution ». Mais il cherchait justement, en quelque sorte, à réconcilier l'hypothèse que les choses évoluaient avec cette hypothèse un peu statique des relations d'équilibre. Mais c'est surtout avec Reclus que l'écologie va avancer en 1905. Élisée Reclus avait repris le terme de mésologie, défini par Auguste Comte, pour en faire un vrai paradigme scientifique. Dès les années 1860, Reclus va utiliser le terme de milieu qu'il conçoit justement comme un terme dynamique, qui interréagit avec les espèces. Et il va refuser l'hypothèse simpliste d'une adaptation à un milieu, parce que le milieu est beaucoup trop complexe pour qu'une soi-disant adaptation au milieu ait une valeur explicative ou pertinente. On voit dans ce cadre-là qu'effectivement, notre ami Darwin est complètement rejeté. Reclus est sans aucun doute un très grand géographe anarchiste, mais il fait mieux encore, en détaillant le concept de mésologie, l'étude des milieux, et en y incluant une théorie des milieux dynamiques. Il suggère que la dynamique des milieux n'est pas sans conséquence sur les sociétés animales et évidemment sur les sociétés humaines. Elles-mêmes sont considérées comme des milieux, introduisant ainsi l'hypothèse d'une temporalité anthropocentrée, une influence des sociétés sur les milieux. Alors c'est surtout le chercheur Pelletier qui va relever dans son analyse de Reclus des phrases très précises. Par exemple, il dit « L'histoire de l'humanité dans son ensemble et dans ses parties ne peut donc s'expliquer que par l'addition des milieux avec intérêts composés pendant la succession des siècles. Mais pour bien comprendre l'évolution qui s'est accomplie, il faut apprécier aussi dans quelle mesure les milieux ont eux-mêmes évolué par le fait de la transformation générale et modifient leur action en conséquence. »
Toutefois, la différence entre l'étude des milieux et l'écologie n'est pas très claire. Pourquoi Reclus, qui connaissait Haeckel, a-t-il préféré le mot « mésologie » ?
Alors, ce n'est pas une histoire de vocabulaire. L'écologie de Warming se découvre comme une succession hiérarchisée. Tout l'effort de nombreux chercheurs de l'époque, sous l'influence des nationalismes et du conservatisme, ont toujours présenté une biologie hiérarchisée, sans même parler bien sûr du racisme et de l'eugénisme de l'époque. La biologie est donc conçue comme explicative pour eux dans leur monde, avec une vision hiérarchisée du corps, une vision hiérarchisée de l'espace et des relations entre les espèces. Haeckel affirme l'inégalité des nations en fonction de l'inégalité raciale, et cette inégalité raciale en fonction de l'inégalité naturelle. Il déclare, notre ami Haeckel, l'antagonisme entre l'aspiration égalitaire et les lois de l'hérédité. C'est précisément cette idéologie de la hiérarchie que va contester Élisée Reclus, cette idéologie de la hiérarchie qu'on retrouve dans tout le darwinisme. Pour Élisée Reclus, il ne peut y avoir de prééminence d'une partie sur une autre. Aucune hiérarchie des phénomènes naturels. Il accorde toute sa mésologie comme un ensemble. Alors j'ai pris cet extrait là encore chez Philippe Pelletier, qui est professeur à Lyon et qui est vraiment un grand spécialiste du sujet, qui cite en 2015 cette lettre de Reclus. Un professeur qui fait partie, comme Haeckel, de la garde du corps des Hohenzollern, ou bien un autre professeur qui veut soumettre les hommes à la domination des savants, comme Huxley, peuvent, tant qu'il leur plaira, opposer la tête au ventre, le fluide nerveux à la lymphe. Ils sont bien tenus de déclarer aussi que la cellule comparable à l'homme dans la société s'associe et se dissocie sans cesse. Mais Reclus va encore plus loin. Il ne fait pas que incorporer l'humain à la nature. Il cesse d'en faire un objet pour l'introduire comme un sujet actif de sa propre évolution. Histoire, géographie ou biologie sont la nature prenant conscience d'elle-même. C'est ce que dit Reclus, pour le paraphraser.
Élisée Reclus, de ce point de vue, est bien différent en utilisant mésologie. Il vaut mieux faire une science moins idéologique, moins ancrée dans le conservatisme, mais c'est écologie qui va s'imposer.
Oui, en fait, il existe une certaine confusion dans les concepts qui vont dominer en science. Aujourd'hui, on dirait que la mésologie paraît plus géographique et l'écologie plus biologique. On pourrait dire que les concepts dominants sont toujours les concepts de la classe dominante. Le christianisme a forgé un homme occidental monothéiste, anthropocentriste, qui a su exploiter et dominer la nature, en y incorporant même des choses absolument affreuses comme son colonialisme. Mais de nombreux pionniers de la biologie darwinienne ou de l'écologie scientifique vont aussi interpréter l'histoire de la nature avec cette vision ultra-conservatrice qui va unifier la science autour des idéologies dominantes, aussi pour faire la part belle à la classe dominante. On retrouve encore cette volonté d'interprétation biologique de tous les phénomènes sociaux et culturels dans des disciplines comme l'écologie comportementale ou dans la sociobiologie. En tous les cas, la mésologie sera en effet concurrencé par l'écologie, et c'est le mot écologie, pourtant tiré du raciste Haeckel, conservateur nationaliste, qui va devenir ensuite le terme retenu pour définir l'étude des milieux, de l'environnement, au sens anglo-saxon des darwiniens. Charles Flahaut, en 1900, va imposer en France le mot écologie en décrivant les séries écologiques et les unités écologiques en phytogéographie.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Espérons que la planète ne deviendra pas ce plus rien interprété par les cow-boys fringants. De retour sur 89.4, sur une radio associative, pas comme les autres, sans dieu, ni maître, ni publicité, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, dans Science en Liberté, une émission scientifique où nous décortiquons aujourd'hui l'évolution incroyable d'une idée, la notion d'écologie. Après avoir vu combien l'idée d'écologie provenait de l'étude des communautés et des milieux, nous en étions à la mise en place d'une conception plus dynamique du monde. C'est l'apparition d'un autre concept important, l'écosystème.
Et oui, Siona, si l'on considère le travail de Stephen Forbes en 1887 sur le microcosme des lacs qui répertorie les espèces dans une approche fonctionnelle, le concept d'écosystème est donc très ancien. Le mot écosystème est en fait introduit dès 1935 par Tanxley pour parler de l'ensemble fonctionnel d'un milieu et des espèces qui le composent. Mais c'est aussi pour tenir compte des changements dans le temps. C'est probablement le chercheur américain Lindemann qui, dans les années 30, va contribuer le mieux à la définition quantitative et donc dynamique des écosystèmes. Avec comme composant principal une dynamique trophique où la nourriture et le recyclage jouent à fond. L'écosystème est donc un assemblage d'espèces étroitement dépendantes les unes des autres, et il évolue car il possède des interactions avec les autres. Pour Lindemann, l'écosystème se développe comme un super-organisme, ce qui va montrer un aspect très holistique de l'écologie pour l'époque. Du coup, l'écosystème est aussi un concept d'équilibre beaucoup plus dynamique, dont le stade climax va encore être reconnu.
On peut dire que désormais, les écologues privilégient une analyse systémique.
Oui, en recherchant le lien entre les organismes, la notion d'écosystème constitue un des concepts unificateurs de la biologie. Alors, il est importé quasiment de la thermodynamique. L'écosystème va permettre une interprétation cybernétique des événements qui vont affecter les milieux naturels. Ainsi, l'écosystème va changer d'échelle dans la compréhension du vivant et insiste sur l'existence d'interactions fonctionnelles. L'écosystème conceptualisé dans les années 30 s'est aujourd'hui imposé et donne lieu à de nombreux travaux. Avec la théorie des écosystèmes, la mathématisation de l'écologie, la biosphère, la biocénose, les milieux, les niches, les écosystèmes, tous ces termes nous viennent du 19e siècle et se sont imposés dans le champ lexical de la science, mais c'est d'abord ce concept d'écosystème qui va s'avérer l'ensemble descriptif pratiquement. En même temps, il pose de graves problèmes théoriques, en particulier à propos de la notion de climax. Car il n'existe pas de stase qui puisse se maintenir, car en fait un écosystème reste toujours ouvert aux influences extérieures. Et chaque organisme, chaque peuplement ne se situe pas au même niveau de son évolution, ce qui va entraîner une dynamique qui n'est pas seulement énergétique, mais qui est effectivement bousculante.
Alors que l'écologie a toujours recherché une situation où l'état d'équilibre serait le gagnant ?
En effet, par-delà la vision idyllique d'une harmonie naturelle, ou au contraire d'une lutte de tous contre tous, entre ces deux hypothèses totalement opposées, la réalité des interactions biologiques s'avère beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile. Les communautés sont des systèmes dynamiques. L'interaction des différentes espèces, des espèces diversifiées entre elles et avec le milieu ambiant, a reçu tout au plus une considération passagère et un peu incidente de la part du darwinisme. Les écologistes, au contraire, se sont contentés presque entièrement d'études empiriques sur le sujet. Il va donc falloir définir une écologie évolutive pour enfin introduire l'analyse des traits d'histoire de vie et de leur évolution dans la nature.
C'est la fin du néo-darwinisme complaisant avec les idéologies ?
Oui, j'espère, et c'est même une révolution avec l'écologie évolutive. Parce que la plupart des concepts darwino-compatibles sont peu à peu contestés. Ils vont être remplacés par des idées toutes nouvelles, comme par exemple l'idée que la niche écologique n'est pas une donnée de l'écosystème, mais qu'elle est au contraire construite. C'est la fameuse théorie moderne de la construction de niche, sur laquelle il faudra d'ailleurs qu'on revienne. La construction de niches est le processus par lequel des organismes, à travers leur activité, vont modifier les contraintes évolutives dans leur environnement et agissent ainsi sur leur propre évolution, mais aussi sur l'évolution des autres espèces. Bon, l'exemple le plus caractéristique, c'est celui du castor qui va construire...
Effectivement,
voilà. Il construit des barrages, il modifie en profondeur son environnement et celui des générations futures. Mais ça serait la même chose pour le hérisson qui, en construisant sa niche, en construisant l'endroit où il va dormir, son refuge, va aussi entraîner l'évolution d'autres espèces. De la même manière, un territoire n'est pas maintenant une juxtaposition d'écosystèmes, mais bien au contraire un ensemble interactif qui implique des éléments qui vont favoriser ou qui vont contrarier la génétique des populations, comme des corridors écologiques ou des barrières géographiques, des morcellements. Tout cela va participer d'une écologie dynamique.
Oui, et ces coupures dans la régularité des écosystèmes sont des paramètres de leur évolution.
Oui, la rupture d'un certain équilibre, qui est précaire, va entraîner l'évolution. Et cette évolution a de telles répercussions biologiques qu'on peut vraiment parler d'une écologie évolutive, qui se définit à petits pas de perte d'équilibre. Pour cela, il faut bien entendu concevoir l'importance de facteurs d'organisation biologique, ce que j'appelle dans mes livres la force structurante des interactions.
Ah oui, n'hésitez pas à consulter Manifeste pour une écologie évolutive.
Merci. D'ailleurs, l'évolution est forcément une écologie évolutive, car rien n'évolue sans une interaction avec les autres. Il faut imaginer de multiples relations développées entre les organismes qui vont construire un monde dynamique dont chacun est acteur et non pas une trame statique comme Darwin définissait l'habitat. On a en fait des strates qui se surimposent, surimpriment, un peu comme des poupées russes.
Du coup, ce sont les débuts d'une autre écologie, une écologie politique.
Alors, on ne pourra pas raconter tout ça aujourd'hui, car cette écologie politique est évidemment liée à des mouvements environnementalistes qui va être relayée par des groupes naturalistes. Alors, c'est un mariage un peu du lapin et de la carpe. Cette écologie militante va défendre les espèces et exiger de reconstruire notre rapport au monde. Mais la biologie de la conservation va exister à côté de cette écologie scientifique et de l'écologie politique qui va se développer. C'est une nouvelle écologie fondée sur des bases scientifiques, mais dont le but est d'alerter les populations et de remédier aux excès du capitalisme. Donc on ne lutte pas contre le capitalisme, mais contre ce qu'il a de trop visible. Elle se fonde sur une idéologie de la nature, mais elle a permis de dégager des moyens de protection et aujourd'hui, plus visiblement encore, de développer ce qu'on appelle une économie durable, c'est-à-dire un capitalisme qui durera mieux si on prête attention à sa durabilité.
Voilà, et qui exploiterait quand même.
C'est toujours un capitalisme exploiteur. Je ne suis pas certain que ce nouveau projet d'économie politique écologique soit une révolution, puisqu'il ne ne demande rien d'autre que la poursuite de l'économie marchande, mais d'une manière moins intensive qu'auparavant, moins destructrice qu'auparavant, comme en témoignent d'ailleurs les exigences anti-industrielles. Alors oui, il faut lutter contre l'industrialisation de nos vies, et même contre l'industrialisation informatique. Mais non, l'écologie politique n'est pas le bon combat, car nous savons que l'économie marchande est ce qui tue la planète, et tout ça s'est fondé sur une hiérarchisation du monde dont il va falloir un jour se débarrasser.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Trio nous chantait l'hymne de nos campagnes.
Et donc, en conclusion, nous voyons que les astronautes sur la Lune se sont retournés et ont considéré la Terre si petite, si lointaine, si fragile. Ainsi serait venue la conscience humaine de la fragilité de notre planète. Du moins, c'est la belle histoire qu'on nous raconte. Et pourtant, loin de provenir de la Lune et de l'observation des astronautes se penchant sur le ciel, l'idée d'écologie est celle d'une planète finie. C'est une idée qui a mis beaucoup de temps à s'imposer scientifiquement. Et pourtant, il en faut de l'écologie. L'écologisme s'appuie tantôt sur la science, du moins sur certains résultats scientifiques. Tantôt la dénigre au nom de la critique d'une dérive technoscientiste. Mais si l'écologie politique nous culpabilise et demande de plus en plus de police encore et de police de l'environnement, il faudra cependant ignorer tous ces tumultes marchands. Car c'est bien la notion d'une hiérarchie du monde qui tue notre planète, d'une marchandisation du monde qui en fabrique des ressources ignorées et inutiles. L'histoire de la planète Terre est celle de l'écologie scientifique. Car toute évolution se fait avec les autres, et il n'y a pas d'évolution sans écologie. L'évolution est une écologie évolutive, et il faudra désormais s'en préoccuper.
Et pour les étudiants, auditrices et auditeurs curieux, vous pouvez consulter le livre Manifeste pour une écologie. Et vous dites-vous oui, il est intéressant.
Merci, Fiona.
Ainsi se finit notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous écrire sur l'email sciencelibre@gmx.fr. Science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur Mickey 3D Respire.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.